Bienvenue dans le podcast de Steve Aldeman, la littérature au 7e ciel.
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce podcast est consacré au thème Amour et BDSM, séparés ou associés. On pourrait penser que c'est simple, certains pratiquent le BDSM avec la personne qu'ils aiment et les autres avec leur partenaire de jeu sans sentiment. Mais ce serait une position très réductrice. Certains ont besoin d'une connexion émotionnelle et cela laisse la part belle au couple établi. Mais d'autres peuvent aussi sciemment refuser que leur passion pour le BDSM soit entachée par des sentiments qui pourraient les empêcher d'explorer complètement la gamme des sensations et des émotions que peuvent apporter ces pratiques. Et en effet, il peut paraître difficile de fouetter ou d'humilier une personne que l'on aime alors que l'on pourrait avoir moins de scrupules dans le cas contraire. De même, un soumis ou une soumise pourrait avoir du mal à envisager des pratiques abouties avec celui ou celle avec qui ils ont fait des enfants, par exemple, ou avec qui ils se montrent doux et attentionnés par ailleurs. La peur du jugement de l'être aimé peut être difficile à vivre quand on accepte des pratiques extrêmes, dans des moments choisis, alors qu'au quotidien, on partage un amour tendre. Parfois, il ne s'agit pas d'un choix. Certains pratiquants forment des couples illégitimes qui n'ont accès qu'à des séances temporaires. Il peut aussi s'agir de couples ou de groupes de personnes issus de relations libertines, acceptées par les conjoints qui pratiquent de leur côté, ou pas. En somme, il y a de très nombreux cas de figure possibles qui peuvent échapper à toute tentative de classification. Dans la littérature, une part importante des romans érotiques sont autobiographiques ou s'inspirent d'histoires vraies. Et la majorité de ces histoires, en tout cas la majorité de celles que je connais, narrent des histoires de couples qui ne vivent pas ensemble et qui ne partagent pas de vie commune. Cette proportion importante se retrouve-t-elle dans la vraie vie? Impossible à dire. Mais aujourd'hui, je vais donner la parole à ceux qui ont accepté de me parler de la façon dont ils vivent leur passion pour le BDSM. J'ai donc le plaisir de vous présenter quatre visions qui apportent chacune une réponse détaillée à cette question. Amour et BDSM, séparés ou associés. Il s'agit de celles de Raven, d'Ombre et Opal, de Kaizen et pour finir, celles de DS Matera. J'ai pris un grand plaisir à les enregistrer, chacun d'eux étant différent, parfois sérieux, souvent drôle et toujours sans tabou, ce dont je les remercie chaleureusement. Commençons sans plus attendre par Raven.
Bonjour Raven, merci d'avoir accepté mon invitation dans le cadre de cet article consacré au sujet Amour et BDSM, séparés ou associés. Donc, qu'est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Bonjour, merci de m'accueillir et me donner l'occasion de m'exprimer sur le sujet. Donc, je suis Raven, j'ai pas encore la cinquantaine, je suis de région parisienne et je suis informaticien.
Est-ce que vous pouvez préciser si vous êtes aujourd'hui en couple ou pas ?
Alors aujourd'hui, effectivement, je suis en couple, mais en couple vanille.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous en êtes arrivé à vous intéresser au BDSM ?
Alors je me suis toujours intéressé au BDSM sans vraiment savoir ce que c'était. J'ai eu régulièrement des pratiques donc kink, comme on dit, qui sortent un petit peu des sentiers battus ou des choses qui sont un peu plus conventionnelles. Donc j'ai eu, dès le début de ma sexualité, j'ai eu l'occasion de faire des pratiques un petit peu hors normes, on va dire. C'est en multipliant les expériences que j'ai eu l'occasion, à un moment donné, de me dire que j'allais me consacrer entièrement au BDSM, de le vivre complètement, de l'assumer. Et c'est ce que j'ai fait cette année.
D'accord. Vous pouvez nous donner un aperçu de ces kinks en question ?
Dès ma première relation, on s'amusait à se mettre de la bougie sur l'un sur l'autre, ce genre de choses-là. Il y a eu, suivant les partenaires, des jeux de fessées, de domination, de soumission, de tenue en laisse, ce genre de choses-là.
Est-ce que vous pouvez nous préciser votre orientation sexuelle et quel rôle vous intéressait plus, ou est-ce que tous les rôles vous intéressaient et que vous étiez en recherche quelque part de votre identité ?
Alors moi, j'ai un profil cisgenre hétéro. Et l'expérience que j'ai eue était plus côté top, dire côté domination. Donc j'ai quand même un côté ce qu'on appelle switch, mais majoritairement dominant.
Le couple que vous formez aujourd'hui avec votre conjointe n'a a priori pas de rapport avec le BDSM, puisque vous m'avez dit que c'est une relation vanille.
Oui.
Ça me fait réagir parce que vous disiez que vous aviez récemment décidé de vous consacrer au BDSM. Or, votre relation aujourd'hui, elle est vanille. Donc, qu'est-ce que vous pouvez en
Absolument.
dire? Parce qu'il y a une espèce de paradoxe là quand même.
Oui, on peut dire ça. En même temps, pour l'historique, quand j'ai décidé de me consacrer au BDSM pleinement, j'ai rencontré quelqu'un très rapidement. C'était en Munch. Et quelqu'un qui avait beaucoup d'expérience et on a tout de suite très vite accroché et on s'est vu plusieurs fois, m'a appris énormément. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup avec beaucoup de respect et j'ai eu l'occasion de pouvoir m'exprimer vraiment presque sans limite, j'aurais tendance à dire, vu que c'était des débuts assumés, où on était vraiment dans le vif du sujet, où là on était vraiment dans un rapport DS, avec beaucoup de rencontres, beaucoup de sorties, de clubs. C'est quelqu'un qui est très actif dans la communauté. Donc j'ai eu l'occasion de voir et de faire beaucoup très vite. Ça, c'était ma partenaire, donc en début de cette année, et cette relation-là s'est arrêtée parce que je suis tombé amoureux d'une fille qui n'est pas dans le milieu. Voilà, donc je me retrouve amoureux en couple avec quelqu'un de vanille, et mais j'ai toujours cet aspect BDSM et cette décision que j'avais prise et qui tient toujours de continuer de travailler, de développer, de rechercher à travers le milieu de BDSM, ses pratiques. C'est plus une recherche personnelle ou sur l'humain. Et donc j'ai décidé de continuer. Mais plus sous forme vraiment sexualisée où la génitalité passe en second plan. Là, je suis plus partant sur des pratiques domination-soumission et plus des impacts, ce genre de choses-là, des découvertes sans forcément avoir des rapports sexuels et toujours sur un plan de bienveillance, de respect, mais avec cette distance de complicité sans aller au-delà.
Donc en fait, vous faites plutôt partie des gens qui abordaient le BDSM sans forcément l'associer à l'amour. C'est un choix ou ça s'est imposé à vous?
Au tout départ, vu que c'était tous les moments kink que j'ai eus, c'était avec des partenaires. La plupart du temps, c'était des relations amoureuses. Ça n'a jamais été très très loin, mais quelques expériences. De manière récurrente. Quand j'ai décidé de vivre mon BDSM, je sortais d'une relation plutôt, ça a été assez douloureux. Je me suis dit, maintenant que je suis célibataire, je peux me consacrer complètement à ça. Donc j'ai cherché à ne pas mélanger amour et BDSM. Donc j'ai
D'accord.
eu une partenaire où on était dans une très bonne entente, une bonne complicité, de la tendresse aussi, mais sans sentiment amoureux, et c'était clair dès le départ. On avait acté les choses, et donc on n'a pas pu continuer comme ça parce que moi je me suis mis en relation vanille.
Votre compagne, elle est au courant?
Oui, elle est au courant.
Comment elle gère ça?
Alors, on en a beaucoup parlé, quoi. Avant même qu'on soit ensemble, je vais lui raconter ma situation, mes expériences, mes recherches. Donc, elle a écouté. Ça n'est pas du tout son domaine. Elle n'est pas intéressée, mais elle était à l'écoute et elle a bien senti que c'était une recherche presque de développement personnel. quasiment, parce que ça vient remuer des choses très fortes chez moi. Et j'apprends beaucoup de moi-même, beaucoup sur la nature humaine. Et me passer du BDSM, c'est un peu compliqué pour moi. Et elle a compris que c'était un élément c'était un pilier en ce moment pour moi. Donc, elle a accepté éventuellement, que je puisse continuer en parallèle certaines pratiques tant que que je sois pas dans un rapport amoureux. Et j'ai pas envie de mélanger forcément. Je suis comblé dans mon histoire vanille. Niveau sexualité aussi, je suis très épanoui. Il y a aucun souci. C'est vraiment très bien. Donc le BDSM est pour moi. Je le répète encore, hein, c'est presque une voie limite spirituelle, c'est philosophique, c'est anthropologique, c'est énormément de choses.
D'accord, c'est à l'image de ceux qui diraient que c'est un style de vie.
Alors, non, je vais pas aller dans un style de vie parce que je m'inscris pas dans un fonctionnement 24/7. C'est-à-dire que je vais dans le style de vie, moi je l'associe plutôt à le vivre constamment. Or, moi je veux délimiter mes pratiques sur des séances bien précises et délimiter dans le temps, marquées par des protocoles et sorti de là, on n'est plus dans un rapport de BDSM, dans une relation BDSM. On l'est que au moment de session, un petit peu comme ce qui peut se passer en club. Où on rencontre quelqu'un et il y a un feeling qui se passe et on peut jouer avec la personne et à la fin de la soirée voilà, chacun rentre chez soi et on a passé un bon moment. Éventuellement on peut se recontacter, refaire d'autres sessions, mais je suis pas dans un état d'esprit constant BDSM. J'ai pas de soumise que je vais solliciter H24, 7 jours sur 7, ou qu'elle me sollicite. Voilà, donc je fais vraiment un distinguo entre les deux.
D'accord. En fait, j'avais bien compris ça, et c'est juste que j'ai mal utilisé le terme lifestyle. Enfin, c'était pas dans le. Je l'ai mal utilisé. C'était pas bien choisi. Qu'est-ce que vous espéreriez à l'avenir? Est-ce qu'il y a un espoir chez vous que votre couple vanille évolue pour intégrer un peu de BDSM?
J'ai pas d'espoir, j'ai pas d'attente par rapport à ça. Si on trouve notre équilibre ainsi, ça peut continuer ainsi pendant longtemps. Après, je suis pas devin. Il se peut qu'il y ait des choses qui passent ou pas. C'est pas très très important en soi.
Est-ce que dans la communication que vous avez eue avec votre conjointe, il y a eu une approche des différents types de pratiques BDSM où elle a pu vous dire, bah ça, j'accepte que tu le fasses, et puis ça, bah je suis pas d'accord.
Donc c'est encore en pourparlers. On a décidé que moi je pouvais continuer dans le BDSM avec un peu la condition, c'est d'éviter le plus possible la génitalité, pardon.
Les
Les
rapports sexuels à proprement parler, quoi.
rapports sexuels, c'est un peu compliqué de définir hein, parce que ça il peut y avoir un attouchement déjà, un baiser. Qu'est-ce qui rentre dans la sexualité? Est-ce que le BDSM en est une? On dit que c'est une pratique, oui, mais c'est un plaisir qui est pour moi pas beaucoup intellectuel. Auparavant, avec mon ancienne partenaire, je mélangeais à la fois la domination, la soumission dans la sexualité à proprement parler. Dans des rapports physiques avec pénétration. Donc là, c'était clair que c'était mélangé. La limite se trouve à ne plus mélanger de manière à conserver le couple, ne pas prendre le risque de s'écarter du chemin qu'on a choisi de parcourir ensemble, côte à côte. Moi, j'ai des expériences à vivre de mon côté. C'est pas pour la tromper. C'est pour me développer moi à travers le BDSM.
De toute façon, on ne parlerait pas de tromper, sauf à ce que vous alliez au-delà des limites que vous vous êtes fixées dans votre couple, puisqu'elle est au courant.
Oui, elle est au courant. Après, c'est moi, je suis quelqu'un à la base qui est vraiment fidèle. J'ai du mal à concevoir les gens qui ont une double vie. J'ai du mal à comprendre. Je le comprends, mais je peux pas l'appliquer pour moi-même. Là, c'est une facilité dans le sens où c'est décorrélé du sentiment amoureux. Et en minimisant aussi les rapports sexuels, juste une session, par exemple, d'impact, rien que ça, moi, ça me suffit si je peux vivre ça en parallèle. C'est pas encore le cas. Là, je suis en contact actuellement pour avoir des partenaires de jeu.
Comment vous pourriez conclure sur le sujet du jour, qui est donc amour et BDSM séparés ou associés? Pour vous, vous diriez que c'est un choix, que ça s'est imposé à vous, que vous préférez que ce soit séparé, ou que c'est la vie qui vous a imposé de vivre ça comme ça?
Alors, on a beau faire des choix, je pense que la vie nous fait des signes aussi. Faut savoir les suivre. Quand il y a un appel de l'amour, moi je peux pas tourner le dos. J'étais dans une relation déesse, donc dominant soumise, et il n'y avait pas d'amour dedans, beaucoup d'affection, mais pas de l'amour. Et quand l'amour a sonné à ma porte, j'ai pas pu faire autrement que d'ouvrir. Après, on fait comme on le sent, par rapport à sa propre philosophie. La mienne, ça a été de gérer ça comme ça. Ça aurait pu être géré autrement si c'était une autre situation, d'autres personnes. C'est faut savoir s'adapter et puis écouter les signes et puis surtout s'écouter soi-même.
D'accord. Eh bien, Raven, bah, je vous remercie d'avoir participé à la réalisation de cet article via cette interview. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation pour vous-même et puis pour votre conjointe.
Ça a été un plaisir d'avoir participé à ce podcast.
La seconde interview est celle d'un couple, Opale et Ombre.
Bonjour à vous et bienvenue Opale et Ombre. Merci d'avoir accepté cette interview dans le cadre de l'article intitulé Amour et BDSM, séparés ou associés. La première chose que j'ai envie de vous demander, c'est pouvez-vous vous présenter?
Donc, Opale. Soumise à mon ombre depuis bientôt 2 ans. J'ai toujours été attirée par le milieu du BDSM, sans jamais avoir d'occasion de l'assumer réellement. Et là, depuis 2 ans, je suis enfin moi-même.
Est-ce que vous pouvez compléter en donnant un âge ou un âge approximatif, une région si vous avez envie, il n'y a rien d'obligatoire, et éventuellement un métier ou une compétence professionnelle. Alors, c'est pas forcément obligatoire, encore une fois, mais l'objectif pour moi dans l'article, c'est notamment de casser les idées reçues de ceux qui pensent que les pratiquants BDSM sont des marginaux.
Et donc, j'ai 43 ans et je suis employée de banque et je vis en région centre.
Donc, moi, c'est Ombre, j'ai un peu plus de 50 ans. J'évolue dans le milieu du SM ou du BDSM depuis plus de 30 ans. C'est-à-dire que, grosso modo, ça a toujours été ma sexualité, on va dire. J'habite en région parisienne et je suis dans le milieu de la finance.
Pouvez-vous expliquer comment chacun d'entre vous en est arrivé à s'intéresser au BDSM?
Moi, ça a été principalement par des lectures. J'ai commencé par Sade. Je suis rentrée direct dans le vif du sujet. Et puis après, il y a eu Histoire d'eau, etc. Et voilà, c'était quelque chose. Je me suis dit, mais c'est moi, ça. C'est ce que je ressens à l'intérieur. Le problème, c'est que après, pour pouvoir assumer ce genre de choses, ça a été beaucoup plus complexe.
Pour l'assumer vis-à-vis de vous-même ou pour l'assumer vis-à-vis des autres?
Pour l'assumer vis-à-vis des autres, parce qu'à partir du moment où j'en parlais à des petits camarades de jeu, au mieux, ça les faisait rire, au pire, ils fuyaient de façon totalement horrifiée. Donc, c'est quelque chose que j'ai très longtemps dû taire, pour éviter des réactions négatives,
D'accord.
malheureusement.
Et vous, Ombre?
Moi, ça a été d'une manière que je qualifierais de totalement naturelle, que j'ai analysée bien plus tard. En réalité, il y avait des choses que j'ignorais qui se sont passées dans ma vie et qui ne me ramenaient que à ça. Ça a commencé même tout gamin. C'est-à-dire un côté sadique où quand on est gamin et qu'on découvre sa sexualité, je parle vraiment de tout petit, hein. On a des petites copines et on peut jouer au docteur ou se découvrir ou ce genre de choses. Il y avait déjà cette notion de douleur qui pour moi m'apportait quelque chose. Et qui, pour les petites copines, on va dire, avec qui je jouais, qui elles-mêmes revenaient le chercher. Ce qui était le plus étonnant. J'ai découvert plus tard le comment, le pourquoi. Après, il y a eu la période adolescente, où là, pareil, j'ai découvert des écrits, entre autres le Marquis de Sade. J'avais une grand-mère qui avait une bibliothèque énormément fournie, mais qui n'avait jamais ouvert aucun livre de sa vie. Et donc, quand j'étais adolescent, je lisais devant elle le Marquis de Sade, et elle me regardait en disant « Qu'est-ce que tu lis ?» Et je lui expliquais à peu près ce que je lisais, bien entendu, en omettant de lui raconter les passages scabreux de mes lectures. Voilà. Et elle trouvait que c'était très bien que je lise. Elle ne savait absolument pas ce que j'étais en train de lire devant elle. Et puis après, quand j'ai commencé ma vie d'adulte et d'adolescent, vers mes 18 ans, je suis tombé sur une dame qui avait une trentaine d'années, qui a été ma maîtresse, ma copine, la femme avec qui j'étais, quoi. Et qui, elle, avait déjà un pied là-dedans et qui a commencé à me montrer et à me faire découvrir. Et où j'ai découvert à ce moment-là en me disant, mais tiens, mais il n'y a pas que moi qui suis comme ça. Il y en a d'autres. Et donc, il m'a mis on va dire, le pied à l'étrier dans le milieu parisien, dans les années 90. Alors, dans les années 90, on n'en parlait pas. C'était plutôt pas secret, mais vraiment très discret. Et il fallait effectivement avoir un peu de connaissances pour accéder au réseau, connaître des gens et pouvoir sortir, découvrir, participer à des soirées, ce genre de choses. Voilà.
D'accord. Je me suis retenu de rire à l'évocation des lectures devant votre grand-mère. Forcément, c'était
Mais...
drôle.
Non, non, mais c'était très drôle parce que j'avais la preuve qu'elle n'avait jamais ouvert. Elle avait une bibliothèque énorme et elle n'avait jamais ouvert aucun livre de sa vie.
Est-ce que vous pouvez nous raconter aux auditeurs, votre rencontre, qu'on comprenne un petit peu dans quelles circonstances, finalement votre couple s'est établi?
Alors, à l'époque, j'avais quelqu'un dans ma vie que j'avais commencé un petit peu à initier parce que, j'avais senti qu'il avait ça en lui et que ça demandait qu'à sortir. Moi, à cette époque-là, j'étais pas libre. Et lui, c'était un jeune homme qui avait une dizaine d'années de moins que moi. Et donc, à qui j'avais toujours dit, le jour où tu rencontres quelqu'un avec qui tu as envie de faire ta vie, ce que je comprendrais tout à fait, tu me le dis, je m'efface parce que c'est normal. Sauf que lui, il n'a rien trouvé de mieux quand il a effectivement trouvé quelqu'un que de me ghoster. Donc, j'étais super mal. Et mon ombre et moi, on traînait sur les mêmes groupes Facebook qui, pour le coup, n'ont strictement rien à voir avec le BDSM. Sauf que lui, il n'a jamais caché ce qu'il était. Donc, je me suis dit, quelle est la personne la plus adéquate de mes contacts à qui aller demander conseil. Et un matin de septembre, je vois qu'il est connecté sur Messenger, lui envoie un message. Je lui explique un petit peu la situation et je lui dis, voilà, dans ma situation, tu ferais quoi? Et puis on a commencé à discuter. Et puis un jour, j'ai eu soudainement envie de passer du tu au vous avec un V majuscule. Et là, je me suis dit, c'est bon, c'est mort, t'es grillé. Monsieur.
Voilà, je pense qu'elle a assez bien résumé l'histoire. On s'était contacté, donc on était sur un réseau donc totalement en dehors du BDSM. Et effectivement, moi je ne cache pas spécialement ce côté-là de ma vie. sans bien entendu rentrer dans les détails, parce que ce sont des groupes sur lesquels c'est pas du tout le sujet. Voilà, mais voilà, donc effectivement, de temps en temps, j'ai des gens qui me contactent en me disant, tiens, toi qui connais un peu, qu'est-ce que tu conseillerais sur ceci, sur cela? J'écris également des articles, alors pas à titre professionnel, mais purement personnel, parce que j'estime que le savoir, ça se dispense. Je veux dire, moi, on me l'a donné. Des gens ont pris le temps de m'apprendre des choses, voilà. Et puis après, avec mon expérience, eh ben, j'estime totalement naturel en retour de aujourd'hui donner un peu, rendre un peu ce savoir. Donc, je suis auteur de pas mal d'articles sur le sujet que je dispatche un petit peu à droite à gauche là, effectivement, sur des groupes BDSM. Et un jour, Opal m'avait contacté en me disant, bah tiens, est-ce que je pourrais prendre un de tes articles pour le donner à la personne dont elle vient de parler, voilà. Et je lui ai dit, oui, tout à fait, pas de problème. Donc ça avait été nos premiers contacts dessus où on avait un petit peu discuté. Et ça s'était arrêté là. Et effectivement, lorsque elle était devenue célibataire, elle m'avait recontacté. Fatalité, je venais d'être célibataire en même temps. Et voilà, on a commencé à discuter et des liens ont commencé à se nouer petit à petit. Et un jour, où elle a commencé à me dire, bah tiens, je commence un peu à être attiré, je me souviens que la première phrase que je lui ai dit, j'ai fait, OK, dorénavant, c'est vous et c'est monsieur. Et ça a commencé pile à ce moment-là.
D'accord. La question qui se pose et qui est liée à l'article d'aujourd'hui, c'est amour et BDSM séparés ou associés. Vous, vous le voyez comment? Séparés ou associés? Et une fois que vous m'aurez répondu, comment ça se traduit dans votre relation?
Là, pour le coup, dans la relation que je vis avec mon ombre, c'est même pas associé, c'est indissociable. Je pense que j'aurais pas de sentiment pour lui, je pourrais pas m'abandonner aussi totalement.
Ce qui peut signifier que le moment où vous êtes passé au vous était concomitant au fait que vous ayez découvert des sentiments pour lui,
Ah, tout à fait.
au travers des diverses discussions que vous aviez eues précédemment.
Oui, tout à fait. Je suis même tombée amoureuse de lui. Je ne savais même pas à quoi il ressemblait.
Comme quoi,
Vrai.
très clairement, c'est pas le plus important.
Absolument pas.
Et de votre côté, Ombre, ça s'est passé comment, de ce point de vue-là, gérer la naissance de sentiments?
Alors, je pense que c'est arrivé à peu près en même temps. Le fait de le réaliser, par contre. Peut-être pas, peut-être pour ma part, peut-être un peu plus tard. Je dirais peut-être à la première rencontre. Vraiment, le fait de le réaliser pour moi. Et la confirmation, ça a été à son départ. Quelques jours plus tard, quand elle est repartie, où je l'ai raccompagnée à la gare, et où elle est partie, et où j'ai vu le train partir, et là j'ai fait, OK, là il y a quelque chose. Parce que effectivement, le départ me laissait un manque, me laissait un vide. Il y avait quelque chose qui n'allait pas.
Comment vous décririez votre couple aujourd'hui, alors de façon pratico-pratique? Est-ce que vous vivez ensemble? Est-ce que vous avez des enfants ensemble? Est-ce que vous avez eu des enfants auparavant, chacun de votre côté? Enfin, est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus pour que les auditeurs comprennent qui vous êtes?
Donc, nous ne vivons pas ensemble. Nous voyons à peu près un week-end tous les 15 jours. Nous n'avons pas non plus d'enfants ensemble. On en a chacun de notre côté.
En gros, c'est ça. Par contre, il passe pas un jour sans qu'on se parle. Je crois que ça n'est jamais arrivé.
Votre relation aujourd'hui donc est sur cette base-là depuis le début, depuis 2 ans à peu près, c'est ça?
C'est ça.
C'est ça.
Pourquoi vous ne vivez pas ensemble? Indiscrétion peut-être.
Du tout.
Alors, d'une part, parce que chacun d'entre nous a ses obligations là où il vit. Et puis ensuite, parce que je pense que, et je pense que mon ombre ne me contredira pas, si on était H24 ensemble, on finirait par plus supporter. Je pense que le quotidien nous boufferait. Alors que là, en se voyant de façon épisodique, il y a toujours le plaisir des retrouvailles, le plaisir d'avoir attendu aussi. Mon ombre.
Alors, je dirais la même chose. Je suis intimement persuadé depuis plusieurs années que je ne suis pas fait pour vivre avec quelqu'un 24 heures sur 24. J'ai essayé, ça ne m'a jamais réussi, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, j'ai un besoin de solitude et de me retrouver seul. Ça, c'est la première des choses. La seconde, c'est effectivement dans les rapports SM et de DS, nous ne le vivons pas lors de séances. Nous le vivons tout le temps. Nous sommes comme ça. C'est-à-dire, par exemple, le vouvoiement, c'est quelque chose de permanent. C'est pas juste quand on fait une séance.
Ça correspond à ce que
Oui.
les gens appellent du DS lifestyle.
Voilà. Mais je vais pas l'appeler comme ça parce que il y a une notion qui me dérange un tout petit peu. Ce serait plutôt quelque chose dans cette idée, telle que moi je la comprends, où on provoque une situation et où on veut la vivre comme ça. Non. Là, chez nous, elle est posée naturellement. Je vais donner un exemple tout bête. Un soir, on se pose dans le canapé et on va regarder un film. Une situation toute banale. Dans 90% du temps, Opal va s'asseoir à mes pieds, poser sa tête sur mes genoux. Et c'est un geste totalement naturel. Ce n'est pas une règle qu'on a établie. On n'a jamais dit, tiens, faudrait faire comme ça. On n'en a même jamais parlé.
C'est notre fonctionnement.
C'est notre fonctionnement. Il y en a un qui domine, l'autre qui est soumis. Et je pense que c'est plus notre nature d'être humain, d'être comme ça, nous, plus qu'autre chose. Donc ça, c'est ce côté-là. Et c'est un côté qui est vraiment intense, qui est plus de l'ordre de la passion, peut-être. Donc qui est vraiment très fort. Et c'est quelque chose qui brûle, qui bouffe tout le temps. Et il faut des moments de répit, il faut des moments où on peut souffler, il faut des moments où on peut être un peu plus léger, plus distant. Il y a également la notion du manque. Quand Opal vient chez moi ou quand je vais chez elle ou quoi et qu'on se sépare, il y a ce manque. Il va y avoir cette attente qui peut parfois être désagréable, mais qui va donner quelque chose au moment des retrouvailles et qui va le surmultiplier. Et ouais, ça c'est quelque chose que j'aime énormément. Quelque part, j'aime le manque. Parce que ce manque me prouve en permanence que oui, effectivement, il y a un lien. C'est pas quelque chose de commun, c'est pas quelque chose d'établi, ou un couple qui vit dans le même appartement ou dans la même maison, bah, au final, ils vivent comme ça. Et si un jour ils ne se manquent plus, si un jour la passion est cassée ou l'amour les désunit, ou que sais-je, ils sont toujours les deux locataires d'un même endroit. Et ils vont devoir vivre ensemble, au moins pendant un temps, s'ils se séparent ou si ça revient entre eux. On est dans un cas où cette contrainte n'existe pas et où donc ce lien entre les deux, je veux dire, peut pas être nié. On n'est pas ensemble parce qu'on vit ensemble. On est ensemble parce qu'on s'aime, parce qu'il y a des sentiments, parce qu'il y a de la passion, parce qu'on se désire, parce que perpétuellement c'est comme ça.
D'accord. Et vous pensez, on le sent bien, vous l'expliquez bien, que ce serait mis à mal par une vie commune permanente.
Sûrement, oui.
Personnellement, j'en suis intimement convaincu, le quotidien est quelque chose qui bouffe ce genre de choses, qui détruit ce genre de choses petit à petit. Très insidieusement, parce qu'on ne s'en rend pas compte, parce que c'est petit à petit. Ça, c'est une expérience que moi, j'ai vécue personnellement, et je pense que beaucoup de gens qui ont pu être en couple, sur le long terme, sur plusieurs années ou quoi, le quotidien, ça amenuise tout ça.
Quand vous dites ça amenuise ou ça vient le bouffer, vous parlez de la relation d'une façon générale, de l'amour, ou des relations, ou de la relation BDSM.
Pour moi, de la relation en règle générale.
Pour moi également, puisque il n'y a pas de différence entre une relation et une relation BDSM. Si on me pose la question, vis-tu une relation BDSM, je vais dire oui. Mais si on me demande, est-ce que tu es avec quelqu'un? Oui, je suis en couple avec quelqu'un. Pour moi, cette DS ou ce côté SM, c'est notre norme.
On n'a pas des moments vanille et des moments SM.
ça bouffe pas la relation ou la relation DS ou la relation SM. C'est la relation dans sa globalité.
Il y a une remarque que j'ai envie de faire parce que je vous connais un petit peu via les réseaux depuis quelques mois maintenant. Il me semble qu'il y a quelque chose qui peut-être jouer dans votre façon de construire votre relation, c'est qu'il me semble que vous avez tous les deux un caractère bien trempé quand même.
Je ne vois pas ce qui vous fait dire ça.
Hein? Je crois que je vais garder les rires, ils sont une bonne réponse.
C'est à peu près ça, oui. On est des caractères un peu impétueux, un peu volcaniques. Oui, tout à fait.
Aussi bien l'un que l'autre.
Oh, oui, clairement. Je pense qu'on n'aurait pas pu être ensemble si on avait été différents. Je veux dire, pour moi, être en couple avec une personne qui serait effacée, c'est pas possible. De par mon caractère, ce serait quelqu'un que je vais bouffer, littéralement. Et si j'ai pas un répondant en face, je m'ennuie. Comme faire une partie de ping-pong, il faut un adversaire, on va dire, qui est un peu à la hauteur. Sinon, si vous êtes beaucoup plus fort ou beaucoup plus faible que lui, la partie est pas très intéressante.
Ça casse un peu le mythe de la soumise qui se doit d'être une serpillière complètement effacée.
Complètement, et c'est pas par hasard que je vous posais les questions.
Très honnêtement, et ça c'est quelque chose que j'ai déjà dit à mon ombre, je crois que c'est la relation la plus saine et la plus équilibrée que j'ai vécue de toute ma vie.
Quelque chose que je n'exprime pas toujours, parce que pour moi c'est naturel et donc je ne pense pas forcément à le dire, mais qui me semble très important, c'est que dans un couple vanille, nous avons deux personnes avec deux personnalités, deux caractères qui vont vivre et qui vont s'affirmer. Et ben, dans un couple DS ou SM tel que nous sommes, c'est-à-dire de manière naturelle, c'est strictement la même chose. Alors oui, la DS est un protocole. Le fait de se vouvoyer, ce n'est qu'un protocole au final. Mais derrière ce protocole, il y a deux individus, deux êtres humains, avec leur caractère et leur personnalité, qui sont comme ça. Et qui ne s'effacent pas derrière un protocole. C'est notre vie qui est comme ça. Ce sont nos personnalités qui sont comme ça. Et nous le vivons comme ça.
Votre protocole, le protocole que vous avez mis en place, étant l'expression de votre personnalité, aussi bien à l'un qu'à l'autre.
Tout à fait, oui.
Oui, et c'est un protocole qui s'est mis en place de façon totalement naturelle. Il n'y a pas eu besoin de pousser les choses. Il est dominant, je suis soumise, c'est notre nature. Et voilà, il y a des gens qui sont hétéros, il y a des gens qui sont homo, et ben nous, on fait du BDSM.
Je voudrais revenir sur ce qu'on disait qui était très intéressant à propos du vouvoiement et notamment vis-à-vis des amis de la famille, si vous pouvez m'en reparler.
Alors, le vouvoiement, donc, s'est instauré naturellement et dès le départ. Mais tout le temps, elle ne me vouvoie pas que quand on est entre nous. Quand on est en famille, quand on a des amis ou quoi, elle me vouvoie tout le temps. Et donc, c'est quelque chose qui s'est instauré naturellement et qui ne choque personne dans notre entourage, parce que ça a toujours été comme ça. Alors, ça fait peut-être un petit peu aristocratique ou vieillot ou autre, mais ça passe très bien. C'est pas comme si on s'était connu en tant que couple vanille, qu'on s'était tutoyé, et que d'un coup, on passe à quelque chose de BDSM et où elle me vouvoie. Où là, ça aurait interpellé les gens en se disant, tiens, mais avant ils se tutoyaient, maintenant ils se voient, il y a quelque chose. Non, là, ça a toujours été comme ça. Donc c'est quelque chose que les gens ont accepté, mais totalement naturellement, sans aucune question.
Qu'est-ce que vous pourriez en dire de ça, vous, Opal, vis-à-vis de votre entourage, amis, famille?
Ben, c'est quelque chose, comme disait mon ombre, voilà, ils ont toujours été habitués. Je sais qu'il y a certaines personnes que j'ai prévenues parce que c'est quelque chose qui pourrait éventuellement les interpeller. Donc, je leur ai dit, ben voilà, je le vous vois, c'est notre fonctionnement. On ne m'a pas posé plus de questions. J'ai simplement expliqué que c'était le fonctionnement de notre couple, que c'était comme ça qu'on marchait et voilà, et ça a pas soulevé plus de questions.
Pour préciser le contexte pratique, vous le vouvoyez et il vous tutoie ou il vous vouvoie aussi?
Non, non, il me tutoie. Et ça me convient tout à fait.
Comment est-ce que vous aimeriez que votre couple évolue à l'avenir? Comment est-ce que vous voyez, je ne sais pas moi, dans 5 ans, dans 10 ans?
Toujours ensemble, déjà. Monsieur.
C'est assez amusant parce qu'on en discutait hier soir et on discutait effectivement du fait que le fait de ne pas vivre ensemble, bah, ça nous convenait parfaitement. Et où je disais, mais quand on sera vieux, dans nos vieux jours, à la retraite, ouais, pourquoi pas, j'aimerais bien me poser effectivement à ce moment-là. Et on a commencé à discuter de ça sans faire de projet, sans tirer de plan sur la comète. Mais si aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne nous convient pas, quand on sera peut-être plus vieux, plus posé, plus calme, plus en fin de vie, en retraite, ou ce genre de choses, oui, à ce moment-là, ouais. Peut-être quelque chose où ce sera une retraite de vie, où, oui, pourquoi pas finir ensemble dans un cadre posé qui puisse nous plaire, ouais, ça, oui, volontiers.
D'accord. Mais qui serait toujours BDSM.
Je vois pas de raison pour que ça change. Alors effectivement, avec l'âge, bah peut-être qu'il y aura des pirouettes qu'on pourra peut-être un peu moins faire. C'est très possible. On l'adaptera, je pense. Voilà. Un peu comme doivent faire les couples vanille. Je présume que, je sais pas, je verrai quand ça viendra. Mais à 80 ans, peut-être que faire des galipettes même dans un lit, ça doit plus être forcément très évident. Parce que le corps répond moins bien aux sollicitations, parce que tout un tas de choses. Je présume que ce sera la même chose pour nous, et que donc faudra peut-être s'adapter, on évitera peut-être certains trucs un peu scabreux, voilà. Mais sinon.
Vous éviterez les fessées trop fortes pour éviter de me péter le col du fémur.
Voilà, ce genre de choses. Mais sinon, oui, dans ce cadre-là, oui. Je veux dire, dans le cadre au moins de la déesse, oui, je pense que ce sera.
Ça ne changera pas notre
ça
nature.
Ça ne changera pas notre nature.
Je vous remercie d'avoir participé à cette interview et d'avoir donné votre avis et un éclairage sur votre relation particulière.
Avec plaisir et merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci.
Et puis à tous les auditeurs, bah, n'hésitez pas à être vous-même, à vivre ce que vous êtes avec vos personnalités et dans ce que vous aimez.
Et à assumer votre nature.
Tout à fait.
Je pense que ça fera un bon mot de la fin. Bon.
Suite à cette interview, j'ai échangé à d'autres reprises avec Ombre et il est fort possible que vous l'entendiez de nouveau sur mon podcast pour divers sujets qui nous intéressent l'un et l'autre, à propos desquels nous avons déjà commencé à travailler. En particulier, nous réfléchissons à un épisode sur les fouets dans le BDSM, et il est également possible qu'il intervienne dans un autre, que j'intitulerai « La religion et le sexe ». Passons maintenant au troisième témoignage, celui de Kaizen, en couple avec Yubi, qui n'a malheureusement pas pu participer.
Bonjour à toi et bienvenue Kaizen, merci d'avoir accepté cette interview dans le cadre de l'article intitulé « Amour et BDSM, séparés ou associés ». Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter ou vous présenter tous les deux puisque tu es en couple?
Oui, ben, bonjour Steve. Mais déjà, ben, je te remercie pour cette interview et de me donner l'opportunité de partager cette passion. Je m'appelle Kaizen, j'ai 48 ans, je vis dans le nord de la France et en termes de, je dirais, d'activité professionnelle, je suis dans l'informatique. Et donc, je suis en couple avec ma soumise Yubi depuis 2019, qui vit dans le sud. Donc, en fait, nous avons, alors on peut dire une relation à distance, hein, parce qu'on vit à 400 kilomètres l'un de l'autre. Mais on arrive à se voir assez régulièrement, donc à peu près tous les mois.
Comme vous vivez à distance, Yubi n'a pas pu participer à l'interview.
Voilà, ouais, avec grand regret.
Peux-tu expliquer aux auditeurs comment chacun d'entre vous est arrivé à s'intéresser au BDSM?
Ben, en fait, on est arrivé un peu fortuitement hein, à s'intéresser au BDSM et en tout cas à pratiquer le BDSM. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que chacun de notre côté, on a eu, on dira, notre vie vanille pendant de nombreuses années. Je crois que j'ai pas précisé tout à l'heure, on a tous les deux la cinquantaine. Donc nous sortons tous les deux d'un mariage d'une vingtaine d'années. Suite au divorce et tout, nous nous sommes rencontrés. Et ben, vu qu'on vivait à distance, hein, vu qu'on avait une relation à distance, bon, c'était un peu compliqué, même si on arrivait à se voir régulièrement. Puis est arrivée la période du Covid, avec ces histoires de confinement, où en fait on était tous les deux cloisonnés, hein, chacun chez soi, quoi. Et là, on n'a pas pu se voir plus régulièrement. Et là, on dira que la frustration commençait à vraiment à monter. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, de mon côté, dans mon ancien mariage, je dirais que le BDSM me titillait un peu, mais je dirais, comme toutes les personnes vanilles et toutes les personnes ne connaissant rien du tout au BDSM, je pensais que cette activité était vraiment une activité assez extrême et n'était pas pour tout le monde, n'est-ce pas? Et du coup, suite, enfin, tu vois très bien ce que je veux dire, hein,
Oui,
dans...
très bien, oui.
Et en fait, suite au confinement, donc tous les soirs, hein, on s'appelait hein, par téléphone et tout. Un jour comme ça, je sais pas, je pense que ce sont les hormones, hein, c'est le concentré d'hormones là qui a explosé. Et j'ai commencé comme ça à donner des petits ordres vraiment gentillets quoi pour Yubi. Et puis elle a commencé à jouer le jeu. Et puis de fil en aiguille comme ça, on s'est dit mais qu'est-ce qui nous arrive? Et puis là, on a commencé à rechercher sur Internet, qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et puis c'est là qu'on a vraiment mis le doigt sur le BDSM. C'est là où on a découvert que ben, finalement le BDSM, c'était pas comme ce que le grand public pense tout de suite, les chaînes, les fouets et tout, mais ça pouvait commencer vraiment de façon légère, même par téléphone, et petit à petit augmenter, quoi. Et c'est comme ça en fait que ben voilà je dirais de jour en jour, de semaine en semaine et des mois en mois, eh ben on est arrivé à devenir de vrais pratiquants BDSM. Yubi, elle n'a jamais été dans sa vie vanille, elle n'a jamais été curieuse du BDSM. C'est moi qui l'ai un peu comme ça initié, de façon improvisée, je cherchais le mot. C'est comme ça qu'on est tombé dedans, quoi.
D'accord. Il y a une des questions que je voulais vous poser, c'était, pouvez-vous raconter votre rencontre? Mais en fait, la rencontre, finalement, par rapport au BDSM, n'a pas forcément d'importance, donc c'est une question que je ne vais pas vous poser, à moins que vous vouliez m'ajouter quelque chose à ce sujet.
Oui, je peux peut-être pour éclairer les auditeurs. En fait, ce qui s'est passé, c'est donc, bah, comme je t'ai dit, hein, donc voilà, chacun a divorcé. Puis, alors, je veux dire, bien sûr, on s'est tous les deux mis sur une application de rencontre et on s'est rencontrés comme ça. Alors, on a fait un an de vie vanille et je me répète un peu. Et c'est à l'issue du Covid où en fait on n'a pas pu se voir. C'est de là que de vanille on a basculé en BDSM. C'est ce que j'aime dire, c'est que cette période de Covid a été très difficile pour nous, mais finalement on a gagné cette nouvelle vie donc de BDSM. Très sincèrement, si on n'avait pas eu ce Covid et ce confinement, on n'aurait jamais basculé dans le BDSM en fait. Ça a été très étrange quoi, mais voilà.
D'accord. Alors, comment décrirais-tu votre couple aujourd'hui par rapport au BDSM? Est-ce que ça a pris une importance, ou quelle importance, dans quelle proportion?
La proportion du BDSM dans notre couple, on dirait qu'elle est assez importante dans le sens où on en parle tous les jours, on tente de le vivre tous les jours, même si c'est très très compliqué avec la distance. Et on peut vraiment dire que ça fait vraiment partie de nous. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on est ensemble, ou même quand on n'est pas ensemble, déjà on discute de BDSM, on regarde s'il y a des événements BDSM à venir, donc sur le site fetlife.com. Hein, et on sait que dès qu'on se retrouve, on se dit bon ben voilà quoi, on remplit notre agenda pour faire le plus d'événements possible ben, pour pouvoir vivre cette activité, cette passion quoi, cette relation BDSM. Voilà quoi. L'idée, c'est que, je dirais, contrairement à d'autres couples, ou plutôt contrairement à l'idée que les gens peuvent se faire d'une relation DS, due à notre distance, c'est vrai que on n'est pas, on peut dire qu'on n'est pas à 200% dans la relation DS, domination-soumission, parce que les contraintes logistiques, les contraintes de temps font que c'est pas évident, quoi. Mais dès qu'on a l'opportunité, ben oui, tout de suite, on est dans nos rôles de dominant et de soumise, quoi.
D'accord. La question que j'ai envie de vous poser tout de suite, c'est, parce que vous en avez parlé depuis tout à l'heure, c'est pourquoi est-ce que vous ne vivez pas ensemble?
Alors, on ne vit pas ensemble, en fait, parce que Yubi, donc, elle a toujours eu sa vie dans le sud. Moi, j'ai toujours eu ma vie dans le nord avec des enfants qui ne sont pas encore adultes. Ce qui fait qu'en fait, logistiquement, c'est pas possible, quoi, de déménager avec les enfants et de les emmener dans le sud. Aujourd'hui, quoi, c'est pas possible. On attend d'une part que les enfants en grandissent et d'autre part, ben, j'attends aussi de trouver un bon boulot, quoi, dans le sud. Ça aussi, ça joue pas mal sur les contraintes.
Ce qui fait que dans une
Mais,
certaine mesure, vous avez fait passer vos enfants en priorité.
oui, tout à fait, ouais.
Tout à l'heure, vous parliez d'événements. Qu'est-ce que vous appelez événements pour que les auditeurs comprennent bien?
Alors, les événements, c'est donc sont qualifiés, nommés de munch ou de munch and play. Donc, en fait, ce sont des soirées organisées par des pratiquants BDSM. Il y a deux types d'événements, des munch, dans lequel ou dans ces événements-là, on dira que tout le monde peut venir, que ce soit des personnes vanilles ou des pratiquants BDSM. On se réunit dans un bar, dans un restaurant, des choses comme ça. Et en fait, on est là juste pour discuter, pour échanger, et pour certains, ben, ils sont là pour discuter et découvrir le BDSM. Ça, c'est vraiment la partie publique dans laquelle on ne pratique pas le BDSM, on ne fait que discuter. Ça, ce sont les munchs. C'est sympa d'y aller, quoi, parce que voilà, on peut découvrir de nouvelles personnes, et puis l'ambiance est vraiment sympathique. Et après, il y a donc un deuxième type d'événement qui sont les munch and play. Donc, il y a toujours une petite partie munch dans laquelle on se rencontre tous, on discute. Et en deuxième partie de la soirée, c'est la partie play, où là, vraiment, on est là, ben, chacun a son ou sa partenaire, ou même on peut découvrir, rencontrer de nouveaux partenaires hein, durant l'événement. Et là, on commence à jouer, quoi. Et c'est là que c'est intéressant parce que, donc, moi, je fais des séances à ma soumise, je joue avec ma soumise. Parfois, il m'arrive de prêter ma soumise à un autre dominant pour qu'elle puisse vivre des expériences hein, BDSM que je ne pourrais pas lui offrir. Typiquement, je pense au shibari. En fait, je suis un très mauvais rigueur. Hein. Donc, le shibari, c'est l'art d'encorder. Je ne maîtrise pas du tout ça, donc je peux prêter ma soumise à un dominant qui va l'encorder comme il faut. Et il y a des fois, ben, c'est des dominants qui me prêtent leur soumise pour que je puisse les impacter durant une séance, bien sûr. Et voilà quoi. Et donc c'est vraiment une ambiance enfin, joviale, on dira. Et franchement, j'invite ben, tous les curieux du BDSM à déjà d'une part participer à un munch pour justement voir que. Alors là, donc, je vais peut-être être un peu violent, quoi, mais vraiment s'apercevoir que les pratiquants BDSM ne sont pas des détraqués, ce sont des gens comme vous et moi. Et à l'issue des munchs, ouais, je les invite vraiment à venir voir dans les munch and play parce que c'est vraiment, en tout cas pour nous, c'est ce qui nous a vraiment permis d'évoluer dans nos pratiques.
Qu'est-ce que vous appelez évoluer dans vos pratiques? Vous diriez que ça a donné un coup de boost d'une façon générale à votre sexualité ou c'est vraiment le BDSM qui vous a intéressé?
Pour les match and play, c'est vraiment le BDSM qui nous a intéressés et qui a fait évoluer notre pratique. Je prends un exemple. C'est par exemple la pratique de l'impact au fouet. Okay. Avant les événements match and play, bon, ben voilà, je dirais, je jouais du fouet sur ma soumise, je l'impactais, je la fouettais, mais je ne faisais pas vraiment augmenter l'intensité parce que, voilà, ben, comme je débutais, on ne sait pas trop comment peut réagir la personne, on ne sait pas trop quelle résistance a la personne, et puis surtout, voilà quoi, on ne sait pas jusqu'à quel point on peut augmenter l'impact. Et au cours d'une soirée BDSM, au cours d'une soirée match and play, quand on voit les autres jouer et on voit comment ils peuvent fouetter, là on se dit, ah mais oui, mais en fait c'est possible, c'est presque du mentorat quelque part, hein. C'est de voir faire les autres, on apprend ce qu'on pourrait faire. Si on n'a pas vu les autres faire quelque chose, on se dit c'est pas possible. Je prends un autre exemple, la pratique des aiguilles. Ben voilà, c'est bien de commencer les aiguilles à travers une soirée match and play, parce qu'il y a des gens experts en aiguilles qui vont te montrer, oui, il faut faire comme ci, faire comme ça, il faut désinfecter, placer l'aiguille par-ci, par-là et tout. Et ça, c'est des choses, en mon sens, hein, c'est des choses que c'est assez compliqué à apprendre tout seul, et même, c'est assez, je trouve, hein, c'est assez risqué et dangereux de s'improviser comme ça à piquer avec des aiguilles. C'est bien de rencontrer des gens dans ces événements pour qu'ils puissent nous montrer comment faire les choses. Là, je parle du fouet, par exemple, de l'impact, je parle des aiguilles, mais aussi c'est pareil, hein, pour le shibari, pour toutes les pratiques. Le fireplay, c'est pareil, c'est dans les événements match and play qu'on a appris à jouer avec le feu. Et tout ça, si on était resté chez nous, sans fréquenter ces événements-là, bon, on serait resté aux menottes et au paddle. Hein. Tu vois, non, mais c'est vrai en plus. Hein, tu vois un peu tu vois le tableau, quoi. Hein,
Très bien, très, très bien, très bien. C'était pas moqueur mon sourire, hein, évidemment. Enfin, mon rire n'était pas
D'accord.
moqueur. Hein. Je vois un autre intérêt à ces munchs, puisqu'on en parle, c'est que au-delà d'apprendre à faire, je pense qu'ils permettent aussi de dédramatiser. Il y a bien des pratiques qui peuvent faire peur. Ça peut être par exemple les aiguilles, hein, typiquement.
Oui, tout à fait. Mais c'est là où je parle d'apprentissage, parce que justement, bah, souvent l'inconnu et la méconnaissance génèrent la peur et génèrent aussi, bah, justement, des obstacles qui nous interdisent ou en tout cas qui nous bloquent à pratiquer, bah, telle pratique, quoi. Et c'est justement, bah, en apprenant des autres et en voyant comment les autres font, ça nous permet justement, bah, d'aller plus loin, d'évoluer, de vivre de nouvelles expériences. Et voilà, et effectivement, oui, comme tu dis, oui, ça enlève la peur, ça enlève les stéréotypes, ça enlève pas mal de choses, quoi. Ça débloque, ça déverrouille, et c'est comme ça qu'on évolue, quoi. À la base, on est des êtres sociaux, hein. Donc, pour évoluer, il faut être en relation avec des bonnes personnes, quoi. Si on reste cloisonné chez soi, pour moi, ça passe pas. On reste bloqué.
Qu'est-ce qui fait qu'on passe d'une vie normale, avoir mis,
Une
enfin,
vie
avoir
vanille,
préparé à
donc.
manger, voilà, la vie du quotidien, au BDSM? Est-ce que comment vous pratiquez? Comment vous passez de l'un à l'autre? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est bien séparé, cloisonné, ou est-ce que ça se vit comme ça au quotidien?
Alors déjà, quand tu dis ça se vit comme ça au quotidien, est-ce que tu parles donc d'une relation 24/7 ou
Peu importe comme qu'elle soit 24/7 ou pas, c'est comment vous deux vous la vivez.
D'accord. Alors, comment on la vit, donc comment on s'organise et comment ça se passe? En fait, on dira que donc quand on est ensemble, on dira sur une journée de 24 heures, plus de la majorité donc de la journée, nous sommes en vanille. Et en fait, on a entre guillemets un contrat tacite qui fait que si moi, comme ça, d'une minute à l'autre, j'ai envie de faire du BDSM, alors Yubi sera à ma disposition. Okay. Et pour passer donc pour faire du on-off, pour passer de vanille à BDSM, c'est bien simple. Dès que j'appelle Yubi, ça veut dire que là, on passe en mode DS, en mode BDSM. Et ben là, on commence. Et ben là, on commence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire on commence? Ça veut pas forcément dire, ben, tout de suite, boum, on sort le fouet ou quoi que ce soit. C'est juste que, ben, à partir de là, elle est en position de soumise et moi en position de dominant. Et elle doit, ben, voilà quoi, elle doit vivre. Enfin, elle doit vivre. et de continuer la journée comme ça, quoi. La journée ou le moment, quoi, l'heure qui vient, les 2 heures qui viennent. Et
D'accord.
voilà, ça, c'est un peu compliqué à expliquer, hein. Peut-être, je ne sais pas si je suis assez clair, mais en tout cas, ta question à un moment donné, c'était
En
est-ce
fait,
qu'on a un code?
ça répondait bien. Ça répondait très bien à la question. Ma question était d'ailleurs pas forcément très claire. Quand tu dis position, il ne s'agit pas forcément d'une position physique, assis, debout, etc. On parle bien d'un état d'esprit, de la sensibilité du moment.
Tout à fait. Et tu dis bien le mot, c'est vraiment un état d'esprit. C'est vraiment l'état d'esprit. Dès que je dis le mot Yubi, dès que je l'appelle par Yubi, ben voilà quoi. Voilà, on n'est plus vanille. Et c'est pas pour ça que c'est pas parce que je l'appelle Yubi que de suite, parce que en plus c'est pas quelque chose qu'on fait. C'est pas tout de suite, ah, je baisse la tête, je souris plus et j'ai le dos courbé et tout. Ça, enfin, en mon sens, hein, c'est un peu la caricature de la soumise, quoi. C'est juste, eh ben voilà, voilà, elle est soumise et voilà. Si j'ai envie de jouer avec elle, bon, en général, si je l'appelle Yubi, c'est que je veux jouer avec elle. Ben là, elle a plus qu'à écouter, elle a plus qu'à obéir, pardon, à mes ordres.
Précisons que Yubi est son pseudonyme, son nom de soumise, et que, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent en général en parlant de BDSM, c'est pas parce qu'elle est soumise qu'elle obéit indistinctement à tout et à n'importe quoi et qu'elle peut pas dire que à un moment donné elle en a pas envie.
C'est tout à fait ça, oui. C'est-à-dire que voilà, c'est toujours pareil hein, dans des aux yeux du grand public vanille, on a l'impression que voilà, la soumise, c'est juste je veux dire, c'est juste un robot qui obéit comme ça, quoi, à la merci de son dominant. Non, 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 c'est pas du tout ça. C'est ok, elle est soumise, mais on reste quand même entre êtres humains. Je la respecte, elle me respecte. On fait des jeux, je la pousse dans des extrêmes, dans le sens, je la pousse dans ses limites. C'est ce qui fait partie de nos jeux BDSM. Mais après, elle a tout à fait le droit à un moment donné de refuser ce que je lui demande. Et pour ça, on a le fameux safe word qui met fin au jeu ou qui ralentit le jeu, quoi, si ça va trop loin. C'est elle qui choisit sa position de soumise.
Est-ce que tu as envie d'ajouter autre chose à cette interview pour compléter tout ce que tu as déjà pu dire, soit pour toi, soit au nom de Yubi?
Ce que j'ai envie de rajouter, c'est que donc comme je l'ai dit là au début de l'interview, donc nous vivons une relation à distance, ok, même si on se voit assez régulièrement, donc tous les mois. Mais je veux dire que le BDSM, très honnêtement, a sauvé notre couple. C'est-à-dire que si on avait continué à vivre comme ça en vanille, je pense qu'une routine se serait installée. Et bah, en vivant à 4 heures de route l'un de l'autre, je pense que notre couple aurait explosé. C'est vraiment le BDSM et l'amour qui solidifient notre couple.
Alors, bah, question
Voilà.
complémentaire, comment vous envisagez de voir votre couple évoluer dans les 5, 10 ans à venir?
Alors ça c'est alors comment je le vois évoluer? Ben, dans les années à venir, hein, je peux pas préciser le chiffre. Ben, moi déjà j'espère vraiment pouvoir déménager et vivre ma vie auprès de Yubi dans le sud. Et après, comment on voit évoluer notre couple? Ben, comme je disais avant, en fait, dû à la distance, on peut pas vraiment. On est beaucoup plus vanille que BDSM. Et je verrai notre couple évoluer en inversant en fait les proportions. Qu'on soit beaucoup plus BDSM que vanille, si l'on pouvait vivre ensemble tous les jours sous le même toit.
C'est votre souhait à tous les deux.
Oui, tout à fait, ouais. Parce que mine de rien, mais c'est pas évident quand on se revoit physiquement. Donc après un mois d'absence, quoi, c'est pas évident. Il faut d'abord se réaligner et tout pour après vraiment profiter de cette relation, quoi, DS. Et du coup, si on vivait ensemble, ce serait beaucoup plus simple.
En augmentant la dose de BDSM, vous n'avez pas peur de vous lasser?
Non, et non. Et pourquoi? Ben parce que justement, Ben, c'est tellement infini le BDSM que ben, toutes les pratiques, toutes les activités, toutes les expériences que l'on peut vivre en BDSM, c'est tellement infini que non, 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 ah non, 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 J'ai pas peur de me lasser. La routine, non, il n'y en aura pas. Voilà, c'est vraiment le. Non, 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 ça, je n'ai aucune crainte pour ça. Je voudrais rajouter un autre truc.
Oui.
Le BDSM, donc dans un couple, demande, ça c'est l'oxygène, hein, du BDSM, ça demande beaucoup de confiance et de communication. Et ça, c'est vraiment quelque chose que finalement, je n'avais jamais vécu dans mes précédents couples. Je ne dis pas que dans mes précédents couples, il n'y avait pas de communication ni de confiance, mais je trouve que en vivant donc dans un lien BDSM, dans un lien DS, la confiance et la communication requise, elle est puissance 10. Et vivre comme ça dans cet espace-là de confiance et de communication, c'est vraiment quelque chose qui fait que rien que pour ça, faut aller dans le BDSM, quoi.
Mais c'est du prosélytisme où je ne m'y connais pas. Cela dit, ça rejoint une chose qui m'a été dite par une femme, une soumise dans une autre interview, qui me disait que la relation qu'elle vivait actuellement était pour elle et de loin la plus saine qu'elle ait jamais vécue par rapport à ses expériences antérieures.
Ça, je comprends tout à fait, ouais. Parce que, ben justement, parce que pour ça, y a plus de zone d'ombre, il y a plus de non-dit. C'est faut vraiment être clair dans ce qu'on fait, dans ce qu'on va faire, dans ce qu'on pense, pour justement que chaque membre du couple soit en sécurité.
Voici qui clôt donc cette interview. Je te remercie Kaizen et Yubi qui n'est pas présente, mais qui est partie prenante de cette interview. Donc je vous remercie tous les deux d'avoir accepté de répondre à mes questions et d'apporter ainsi votre pierre à l'édifice fragile de la culture et de la tolérance.
Eh bien, écoute, Steve, moi, je te remercie pour cette interview. Je te remercie pour l'intérêt que tu as porté pour notre couple et pour ta gentillesse et ta sympathie.
J'ai oublié de préciser que si j'ai tutoyé Kaizen, c'est parce que nous avions déjà beaucoup échangé sur Facebook avant même d'envisager de l'interviewer pour ce podcast. Par ailleurs, Yubi est une de nos fans de la première heure. Elle a lu les deux premiers tomes de notre double roman et son enthousiasme nous a beaucoup aidés. Je tenais à la remercier tout particulièrement. Maintenant, je vous propose d'entendre la dominatrice ayant pour pseudonyme Déesse Matera, que je connaissais également avant de l'interviewer et qui nous a aussi aidés en donnant sa voix au personnage secondaire de Chloé dans les courts teasers que Rose et moi avons réalisés dans le cadre de la promotion de notre double roman Maître et Soumise, leur histoire. Vous pouvez voir ces teasers sur notre chaîne YouTube, dont l'adresse est en description. À son tour de vous faire part de son expérience.
Alors, je vais interviewer aujourd'hui une dominatrice dont le pseudonyme est Déesse Matera. Donc, merci d'avoir accepté cette interview. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter?
Bonjour, mon pseudo est Déesse Matera, j'ai 40 ans, je vis en région parisienne actuellement et je travaille dans la fonction publique.
Aujourd'hui, je vous interviewe dans le cadre de l'article intitulé Amour et BDSM séparés ou associés. Et donc, dans le cadre de cet article, est-ce que vous pouvez nous dire si vous êtes en couple?
Je suis actuellement en couple, je suis mariée avec mon soumis qui m'est dévoué.
L'interview devait se faire initialement avec vous et votre soumis, et puis finalement, il est très occupé par son activité professionnelle. Pouvez-vous, en son absence, nous expliquer comment vous et lui en êtes arrivés à vous intéresser au BDSM?
Alors, il faut savoir que mon soumis a eu plus d'expérience dans le domaine du BDSM que moi. Il a toujours été attiré par ce milieu. De mon côté, j'étais attirée aussi et quand nous nous sommes rencontrés, nous avons parlé de nos envies et nous avons décidé d'expérimenter le milieu du BDSM ensemble, tout en respectant les besoins de chacun. Pour pouvoir avancer à notre rythme.
Pour comprendre, votre couple ne se base que sur une relation BDSM ou vous êtes en vie commune?
Alors déjà, ce qui est important, c'est que le BDSM ne fait pas, n'est pas au centre de notre relation. On souhaite préserver un équilibre, on vit ensemble, on a une vie de famille. C'est important pour nous que le BDSM en fasse partie de cet équilibre, mais on ne veut pas que le BDSM soit au centre de notre relation.
D'accord. Votre couple est relativement jeune, ça fait 2 ans donc, si j'ai bien retenu.
Tout à fait.
J'imagine que vous avez eu une vie auparavant, chacun de votre côté.
Oui.
Lui, a priori, vous l'avez bien expliqué, avait déjà une bonne expérience du BDSM. Pour ce qui vous concerne, c'est le BDSM au sens large ou c'est essentiellement une relation de domination-soumission?
Alors, me concernant, j'ai connu une première relation en tant que soumise qui s'est mal terminée. Et avec mon mari, nous avons parlé de nos besoins respectifs. Et c'est pour ça aussi que nous sommes un couple, entre guillemets, switch, pour pouvoir respecter les envies de chacun. En sachant que lui, à la base, est vraiment de nature soumis. Il a eu des dominas avant, à distance. Mais me concernant, moi, je n'ai eu qu'une seule relation BDSM avec un dominant.
Quand vous dites que ça s'est mal terminé, histoire qu'on comprenne, hein, que ce soit peut-être un peu plus pratique pour les auditeurs, qu'est-ce que vous appelez mal terminé?
Alors, ce qui s'est passé, c'est que en tant que soumise, j'ai voulu aller le plus loin possible. J'ai voulu expérimenter cette relation avec cet homme et j'ai voulu aller de plus en plus loin. Et à la fin, je dis que ça s'est mal terminé puisque il ne m'a pas respectée et ça s'est fini dans la violence. Donc, j'ai été frappée. Voilà.
D'accord.
Et il prenait plaisir à ça, et ça a été pour moi la fin. Et là, je me suis dit que je ne pouvais pas supporter cela.
D'accord. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre rencontre? Parce que, évidemment, une rencontre entre une femme qui a eu une expérience de soumission et un homme qui, lui, a toujours désiré être soumis, on peut imaginer comme ça que... Bah, ça cadre pas, en fait.
Oui, effectivement. Alors, nous nous sommes rencontrés via les réseaux sociaux, mais pas du tout dans le milieu du BDSM. C'était sur un autre groupe, sur une passion commune. Nous aimons tous les deux l'art, donc c'était dans un groupe pour l'art. Et puis, on a échangé et au fur et à mesure, on a décidé de se rencontrer. Et puis, on s'est confié sur nos vies respectives, nos vies d'avant, nos expériences. Et très naturellement, on a évoqué nos relations par rapport au BDSM. C'est venu vraiment très naturellement. Et voilà. Et après, donc, on a commencé à expérimenter ensemble, en sachant que on a débuté très très vite, mais après on a eu un laps de temps plutôt relation vanille, avant que ça revienne un peu plus sérieusement.
À vous entendre comme ça, et pour répondre à la question du jour amoureux BDSM séparé ou associé, on imaginerait que vous voyez ça associé, mais j'aime autant entendre votre réponse et puis qu'éventuellement vous nous donniez le point de vue de votre mari.
Alors, j'ai pas compris la question.
Elle était un peu alambiquée, j'avoue.
Stéphanie de Monaco, c'est ça la réponse?
Ok, c'était mérité. Alors en fait, le thème de l'article, c'est amour et BDSM séparés ou associés. Donc la question que je me pose, c'est comment est-ce que vous voyez les choses, aussi bien l'un que l'autre?
Alors pour nous, on ne dissocie pas notre relation du BDSM puisqu'elle fait partie de notre vie, même si, comme je l'ai dit précédemment, elle ne fait pas partie, elle fait partie de notre vie, de notre relation, mais elle n'est pas au centre. Et c'est vrai que ce type de relation n'est pas du tout dissocié de l'amour que nous avons l'un pour l'autre.
On pourrait même se poser la question de savoir si le BDSM n'est pas venu entre vous précisément parce qu'il y avait de l'amour. Aurait-il pu apparaître si vous n'aviez pas eu de sentiments l'un pour l'autre?
Non, certainement pas. Non, la relation était d'abord portée sur l'amour qu'on avait l'un pour l'autre. Et très naturellement, nous avons basculé vers le BDSM puisque nous étions tous les deux attirés par ce monde, en sachant que lui avait beaucoup plus d'expérience que moi. Au début, j'étais un petit peu effrayée, pour être très honnête. Et puis, nous avons établi tous les deux même une grille, chacun de notre côté, pour savoir ce qu'on aimait, ce qu'on n'aimait pas. Et on a mis en commun nos grilles. Et nous avons échangé, nous continuons d'échanger d'ailleurs dessus.
Ce que vous
Voilà.
appelez une grille, c'est vous avez rempli chacun l'équivalent d'un questionnaire de soumission, c'est ça?
Exactement, oui, de pratique BDSM. Nous avons répondu effectivement à une longue liste de pratiques BDSM. Et puis après, on en a discuté, savoir ce qu'on aimait, ce qu'on n'aimait pas, pour voir jusqu'où on pourrait aller ensemble. Et puis on avance petit à petit et on discute, on échange énormément. Par contre, la communication, elle est vraiment au centre de notre relation. Et de toute façon, on se l'est dit aussi, on fait des pauses. On a besoin de faire des pauses BDSM pour pouvoir justement souffler, puisque cette relation demande beaucoup d'énergie. Et on a besoin en fait pour garder notre équilibre de parfois faire des pauses et on se le dit l'un à l'autre quand on n'est plus dedans, très clairement.
D'accord. Qu'est-ce qui vous a effrayé dans la relation que votre conjoint, que vous n'étiez peut-être pas marié dès le début, qu'est-ce qui vous a effrayé dans ce qu'il vous proposait?
C'est par rapport à mon vécu. Avec la relation avec le dominant avec qui ça s'était mal fini, j'étais allée assez loin avec lui. Et c'est vrai que même si j'étais attirée par ce milieu-là, j'ai trouvé certaines pratiques hors normes selon moi et je ne voulais pas du tout en arriver là. Donc j'ai beaucoup échangé avec mon mari concernant certaines pratiques que je n'envisageais pas, comme le libertinage, voilà, l'intervention d'une tierce personne au sein de notre couple, les soirées BDSM. C'est vrai qu'on aime bien échanger avec d'autres personnes via les réseaux sociaux, mais on ne souhaite pas que ça aille plus loin. Même si j'ai bien conscience que la relation que j'ai avec mon mari est loin d'être dans la, entre guillemets, ce qu'on appelle la normalité. Mais voilà, j'ai mes limites. Il a ses limites aussi. Et ça, on en parle beaucoup.
Une chose qui me fait réagir, c'est que vous évoquiez le fait que vous aviez peur que certaines choses vous faisaient peur dans la relation qui se dessinait. Mais dans la position, de dominatrice, on pourrait imaginer comme ça qu'il y a moins de risques. Alors, je sais que ce que je dis n'est pas forcément vrai, mais tout le monde, enfin les gens, en l'occurrence les novices, ceux qui connaissent pas les relations BDSM, pourraient avoir cette impression. Donc c'est vrai que j'aimerais bien avoir votre point de vue sur ce sujet-là.
En fait, le rôle de dominatrice, je le découvre, hein, même si j'ai eu cette expérience avec ce dominant puisqu'on était switch, c'était plutôt par le jeu. Là, j'entre vraiment dans ce rôle-là qui est quand même très épuisant. Parce que j'ai mon mari soumis qui est beaucoup en demande d'éducation. Il appelle ça de l'éducation. Donc je fixe des règles qu'il doit respecter avec des châtiments de plus en plus lourds. Et c'est vrai que je dois faire preuve de pas mal d'imagination et de contrôle pour son bien, entre guillemets, pour ses besoins. Et c'est vrai qu'il y a des moments où c'est épuisant, il s'en rend compte. Et c'est vrai que ça peut dévier. Ça peut dévier sur l'envie de faire une bonne pause. Ou même lui, lorsqu'il enfreint les règles, voilà, c'est très, très épuisant parfois de devoir tout contrôler, d'être dans le contrôle. Ça
D'accord.
paraît simple comme ça sur le papier, mais au final, c'est loin d'être simple.
C'est le fait finalement d'être effectivement toujours dans le contrôle qui pour vous est épuisant.
D'être dans le contrôle, puisque à la base, c'est ce que j'aime. J'aime pouvoir le contrôler, mais en même temps, ça me demande beaucoup d'énergie de devoir vérifier que les règles soient bien appliquées, surtout que j'ai un. Il se comporte parfois de manière provocatrice, plus ou moins volontairement, d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est un petit peu fatigant.
Quand il se comporte de façon provocatrice, c'est-à-dire il va vérifier que les règles, il va vérifier que vous êtes bien là, en fait.
Oui.
D'accord.
Oui. Et parfois, il ne le fait pas de manière volontaire. Et je le rappelle à l'ordre et puis il me reproche d'être trop gentille.
Ça, c'est quelque chose qui peut être épuisant, j'imagine.
Oui. Il me l'a encore dit tout à l'heure. J'étais trop gentille. Et voilà. Et oui, mais comme je lui dis la différence, c'est que je l'aime. Donc voilà. Et bon, bah après, il me l'a dit qu'il ne souhaite pas que je change et qu'il aimerait vraiment dans son plus grand rêve que je sois un peu plus vicieuse, un peu plus perverse. Voilà. Mais je lui dis oui, mais je suis de nature gentille. Donc voilà.
Des précisions utiles et intéressantes, je trouve, à entendre. D'abord parce qu'elles montrent bien qu'il n'y a pas, enfin, qu'on est bien dans un jeu de rôle, malgré tout, même si l'intérêt peut être plus ou moins poussé suivant les participants au jeu en question, mais qu'on n'est pas, enfin, qu'on est toujours bien dans l'écoute de l'autre.
Alors, je vais juste rebondir sur ce que vous dites.
Ouais.
Pour nous, ça n'est plus un jeu. Ça, c'est important de le dire. C'est-à-dire que tout au départ, quand on avait décidé d'expérimenter cette relation BDSM, c'était vraiment sous forme de jeu, vraiment de manière ponctuelle. Et puis, au fur et à mesure, cette relation s'est accentuée. Et maintenant, elle fait quand même partie de notre vie. Ça, elle ne fait plus partie. Ça n'est plus un jeu. Et ça, je m'en rends compte depuis. Alors, c'est assez récent. Je m'en rends compte seulement depuis cet été, donc depuis quelques mois, qu'il y a un changement qui s'opère à ce niveau-là. On a ce sentiment d'appartenance l'un à l'autre. Alors, je pense que ça peut choquer ce mot-là. Mais pour nous, c'est important de se dire qu'on s'appartient l'un à l'autre, même si, entre guillemets, on reste libre, mais il y a ce sentiment d'appartenance. Et ça, c'est important pour nous. Donc, on n'est plus dans un jeu.
D'accord. Dans le sens où c'est un sentiment d'appartenance qui est lié à la relation de domination-soumission.
Exactement, oui.
D'accord. Important à préciser parce que on
Oui.
pourrait penser, enfin, moi j'ai tendance à penser que dans le mariage, de toute façon, on a déjà bien une forme d'appartenance de l'un à l'autre. Hein. On se
Oui.
promet bien pour la vie. Hein. On
C'est
se
ça.
promet de serré
Oui.
pour la vie.
C'est ça. Si tout va bien.
Oui. Bon, on se le promet quand même. Après, on espère que ça va durer,
Oui.
mais en tout cas, on se le promet. Et tant que c'est
C'est vrai.
fait, ça, c'est quand même bien le cas. D'ailleurs, pour casser un contrat de ce type, il faut quand même se lever tôt le matin.
Ça, c'est vrai.
Donc bon. Bon, moi, j'ai tendance à voir ça comme ça. Je le dis, même si je suis pas la personne interviewée, mais je trouve qu'il y a des similitudes quand même dans l'engagement de l'un à l'autre, que ce soit l'engagement BDSM ou dans l'engagement marital, enfin, même s'il n'y a pas de mariage d'ailleurs, dans l'engagement d'amour qu'on peut avoir l'un pour l'autre. Donc, quand vous dites que c'est plus un jeu, j'ai tendance à entendre moi, alors je vous le fais préciser, mais j'ai tendance à entendre moi que il y a non plus une envie de jouer, mais un vrai besoin de pouvoir se comporter à la fois de son côté comme soumis et de votre côté comme domina.
Oui, complètement. Oui, c'est vraiment ça. Oui, vous avez bien bien résumé.
Merci, merci. Bon, enfin, c'était surtout pour vérifier si j'avais bien compris.
Oui, c'est ça. C'est exactement
D'accord.
ça.
Donc, comment est-ce que vous voyez votre. Enfin, là, ça fait 2 ans, c'est relativement court et en même temps, il y a déjà une bonne histoire. Comment est-ce que vous verriez ou comment est-ce que vous aimeriez que votre relation évolue à l'avenir?
Ah, bonne question. Je pense que j'aimerais bien qu'elle évolue dans la dévotion de la part de mon mari. Ça, c'est quelque chose, il le sait, c'est ce qu'il souhaite lui aussi. Et vraiment, continuer à bien respecter cet équilibre entre cette relation BDSM et la relation vanille. Vraiment, qu'il n'y ait pas la relation BDSM qui prenne le dessus. C'est ça que je ne souhaite pas.
D'accord, mais en même temps, ça paraît compliqué. Enfin, là, au travers de ce que vous venez de me dire, on pourrait penser que c'est l'inverse. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai entendu, dans le sens où quand vous me dites que vous aimeriez que la dévotion de son, enfin,
Oui, de mon mari,
de vous
mais en
envers
fait.
vous, on peut penser que bah, vous allez plutôt dans le sens d'un accroissement de l'emprise quelque part, enfin d'une emprise, le mot est peut-être pas le bon, mais d'un accroissement de la relation BDSM par rapport à l'ensemble de votre relation.
Alors, ce que je vais préciser, c'est que c'est dans la relation BDSM où je souhaite que mon mari soit plus dévoué. Moins
D'accord.
dans la provocation comme il le fait actuellement. C'est-à-dire, je souhaite que la relation BDSM ne soit pas au centre de notre vie commune, mais que dans cette relation, quand nous la vivons pleinement, je souhaite voir sa dévotion encore plus qu'aujourd'hui.
Vous souhaitez le voir plus soumis qu'il ne l'est aujourd'hui. Est-ce que c'est un bon résumé?
Oui, exactement.
D'accord. Parce que quelque part, quand vous prenez ce rôle, quand vous jouez ce rôle, le terme jouer n'est peut-être pas le bon là pour le coup par rapport à ce que vous m'avez dit tout à l'heure, mais quand vous êtes dans ce rôle, vous avez la sensation que ce ne peut être épanouissant que si il tient bien le rôle, il tient bien son rôle aussi en fait.
Oui, c'est-à-dire que, alors là, il est en progrès. C'est ce que je lui ai dit. C'est que au départ, dans cette relation, il était beaucoup dans la provocation, on va dire les trois quarts du temps. Après, progressivement, c'est venu la provocation, on va dire la moitié du temps. Et maintenant, c'est à peu près, on va dire un quart de temps. Il est provocateur. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il évolue. Il évolue là-dessus et puis ça, c'est ce que je souhaite. C'est ce que je souhaite qu'à long terme, il soit vraiment vraiment dévoué. Voilà, obéissant, on va dire.
Ouais. Mais peut-être que pour faire ça, il avait besoin de sentir que vous étiez bien dans ce rôle-là, finalement, qui pour vous était un peu nouveau quand même.
Oui, c'était nouveau et puis. Il testait mes limites, donc ça c'est sûr. D'ailleurs, il continue à les tester. Et c'est pour ça que ce soir, d'ailleurs, je lui fais signer un contrat. Donc, il m'avait demandé, il m'a dit à plusieurs reprises, il a les règles qui sont écrites, mais là, il m'a provoqué il n'y a pas si longtemps en me disant, mais au final, je les ai jamais signés. Donc, je dis, bon, bah voilà ce qui t'attend ce soir.
D'accord. Journée mémorable.
C'est ça.
Donc, dans la mesure où vous vivez pas le BDSM au quotidien, certains diraient H24, ce qui serait intéressant, je pense, pour les auditeurs, c'est de comprendre comment vous passez de l'un à l'autre. Vous avez un protocole?
Oui, le protocole, c'est la cage de chasteté.
D'accord.
C'est-à-dire que pendant un laps de temps, il porte une cage de chasteté, et c'est le signal comme quoi on entre dans cette relation et qu'il doit respecter les règles qui lui sont imposées.
Et quand vous entrez dans cette relation, comme vous dites, c'est vous entrez pour 1 heure, pour 2 heures, pour 3 jours.
Ah bah alors là, voilà, déjà, ça va faire 15 jours. Donc après, ça peut durer un mois, ça peut durer longtemps.
D'accord. Bon. Donc
Oui.
clairement, effectivement, par rapport à ce que vous disiez, on n'est plus dans un jeu temporaire, quoi. On n'est
C'est
plus
ça.
dans une séance, terme souvent employé dans le BDSM.
Oui, on n'est plus dans des séances comme on le faisait avant. Avant, on était vraiment sur des séances. On n'est plus sur des séances, là on est vraiment dans cette relation, dans une relation BDSM. Et puis, c'est vrai que c'est le soulagement pour lui quand il n'a plus la cage. Voilà.
D'accord. Soulagement et en même temps, comme ça le Pourquoi soulagement finalement pour lui alors que, bon, je sais bien évidemment que ça peut faire sourire ma question, mais, mais pourquoi finalement un soulagement alors que ça l'a toujours habité?
Alors, justement, c'est vrai que c'est très contradictoire, c'est-à-dire que sur le moment, il est soulagé, physiquement parlant, c'est vrai que c'est quand même lourd à porter, mais après, ça, ce sont ses paroles, donc je dis, on en a parlé. C'est vrai que pour lui, tout au départ, quand on la retire, les jours qui suivent, il se sent, je dirais pas mal à l'aise, mais il sent qu'il lui manque quelque chose, qu'il manque une partie de lui. Et après, bon, les jours se suivent et ensuite, après, ça va mieux, hein. Et c'est vrai que parfois, ça arrive que quand je dis que je veux lui remettre sa cage, et il veut pas au début, il rechigne un petit peu. Et puis après, quand elle est mise, je vois vraiment même l'évolution dans son comportement. Où il se sent vraiment. Moi, il me l'a dit, hein, il me l'a dit très clairement. Pour lui, la cage de chasteté, c'est un vrai symbole d'engagement. Et il a vraiment l'impression que j'ai entre guillemets la main sur lui avec cette cage, parce que c'est moi qui ai la clé, évidemment. Lui ne l'a pas.
Oui,
Donc.
j'allais dire logique.
Non, non, il ne l'a pas. Elle est cachée d'ailleurs. Donc, il ne sait pas du tout où elle est.
D'accord.
Et parfois, je la porte à mon cou, par provocation. Et voilà. Donc, c'est vrai que c'est pour moi un petit peu amusant de le voir trépiner parfois. Voilà.
Bah, c'est le plaisir de dominer, en fait.
Exactement. Oui.
D'accord. Votre engagement, votre relation, elle est quand même très forte. Elle est, comme vous l'avez dit, c'est plus un jeu. Et la question que je me pose, c'est quel impact ça a sur votre vie de famille? Vous avez peut-être des enfants?
Alors oui, on a des enfants et on fait attention, hein, c'est-à-dire que nos enfants ne sont pas du tout au courant de notre vie, de cette relation. Et d'ailleurs, notre entourage non plus, à quelques rares exceptions, puisque mon mari a gardé contact avec certains contacts sur les réseaux qui nous suivent et qui sont au courant, mais c'est très très peu de personnes. En tout cas, dans notre cercle familial, les personnes ne sont pas au courant. C'est vraiment du domaine, entre guillemets, j'allais dire, privé, alors que c'est assez drôle, puisqu'on met les photos, on met nos photos sur les réseaux sociaux. Mais en ce qui concerne notre famille, et encore moins le milieu professionnel, personne n'est au courant.
Ce qui est plutôt logique.
Oui.
Avez-vous envie d'ajouter quelque chose à ce que vous avez dit pour compléter quelque chose ou un sujet que j'aurais pas abordé et qui pourrait vous tenir à cœur?
Oui, je vais peut-être finir par, oui, par pour moi quelque chose d'important, c'est-à-dire que mon conjoint m'a sollicité au départ dans cette relation et au départ je suis entrée pour lui faire plaisir, pour vraiment lui faire plaisir et je me suis dit si je ne le fais pas, peut-être qu'il va m'échapper. On en a longuement parlé. Il m'a dit, je n'ai pas besoin de ça pour être avec toi. Je t'aime tel que tu es. Et si tu n'as pas envie de te lancer dans cette aventure, je le respecterai. Alors à ce moment-là, on s'est mis d'un commun accord en se disant, oui, on tente. On tente l'expérience. Et c'est vrai que cette cage de chasteté, au début, je me suis dit, mon Dieu, c'est un engin de torture. Et au final, ça m'a beaucoup plu. Ah non, mais c'est vrai. C'est un véritable objet de torture. Je me suis dit, au secours, qu'est-ce que je lui fais subir?
Ça
Et
me fait sourire, mais c'est pas moqueur, hein, jamais
non,
moqueur.
non, non, mais je
C'est
comprends très bien.
amusant, forcément.
Et j'ai vu que ça lui procurait un vrai plaisir. Et il m'a dit, tu te rends compte, c'est toi qui as la clé quand même de ça. C'est un vrai pouvoir que tu as. Et j'en ai pris conscience au fur et à mesure de notre expérience. Et maintenant, c'est vrai que c'est un vrai, entre guillemets, c'est un vrai symbole d'engagement, je trouve. Et de confiance aussi, hein, parce que mine de rien, C'est quand même, ça n'est pas rien de confier une partie de soi à l'autre. Et c'est vrai que ça demande aussi de l'organisation quand il est en déplacement, comment ça se passe, comment on s'organise. Donc je lui donne une enveloppe scellée, il doit l'ouvrir en cas d'urgence, il a un problème. Voilà, c'est des petites choses, mais c'est vrai que c'est important pour nous. On a trouvé cet objet qui nous correspond vraiment dans cette relation.
Il y a une forme d'épanouissement personnel grâce à l'usage de cet objet, en quelque sorte.
Oui, complètement. Oui.
C'est ce que je
Oui.
ressens quand je vous écoute m'en parler, c'est ce que je ressens quelque part. Donc,
Oui. Et il a vraiment. Après, je l'ai fait sourire en même rire. Quand je lui ai dit, je dis, j'ai l'impression d'être comme une anthropologue et d'observer le comportement évoluer quand il porte cette cage. Il est beaucoup plus tendre, beaucoup plus à l'écoute. C'est vrai que c'est assez curieux comme sensation. Après avoir échangé aussi avec d'autres soumis aussi, hein, c'est vrai qu'il y a un véritable changement de comportement pour certains avec cette cage. Donc c'est vraiment particulier.
et il n'y a que l'usage de cet objet qui vous donne cette même impression, ou il y a d'autres pratiques qui peuvent vous donner la même impression?
Principalement, c'est cet objet. Après, c'est vrai que le fait de qu'il soit attaché, ça je le fais moins souvent parce qu'il arrive à se défaire, hein, le malin.
Comment ça, il
Ouais.
arrive? Il n'a pas envie d'être attaché?
Ah non, c'est un petit rebelle, hein. C'est un petit rebelle. Hein. La dernière fois, pour être honnête, je ne sais pas comment ça s'est passé. Bref, on a eu un petit séjour tous les deux dans un gîte spécialisé dans une salle BDSM. Donc, il y avait une croix de Saint-André. On n'avait jamais expérimenté. Je l'avais attachée. J'avais voulu descendre, prendre un petit café et j'ai entendu un grand bruit là-haut. Je me suis dit, au secours, qu'est-ce qui s'est passé? Et au final, je ne sais pas comment il a fait. Il y avait un des cadenas qui avait cédé et il avait réussi à faire bouger la croix. À faire bouger la croix jusqu'aux clés. Donc quand même, faut le faire.
Ah oui. Ah oui.
Donc non, il est assez, non, non, il est assez tenace.
D'accord.
Voilà,
Il a
donc.
besoin de vraies limites, d'une croix en béton
Et c'est
qui
ça,
bougera
mais
pas.
vraiment fixé au mur. Hein. Ah non, non, c'est un truc. Non, mais quand je vous dis qu'il est provocateur, il est provocateur jusqu'au bout. Hein. Et une
D'accord.
fois, j'ai dû l'attacher au radiateur hein, avec menottes pour pas qu'il bouge. Hein. Pas de choix.
C'est forcément amusant à entendre, et en même
Oui.
temps, on ressent la relation qui vous lie et qui est à la fois, a priori, enfin, je pense, entre vous pleine d'émotions et en même temps amusante, effectivement. Enfin, on voit bien que c'est une autre façon de vivre sa relation, mais il y a de la complicité entre vous. Enfin, c'est.
Oui.
Forcément, vous me racontez ça, je vous imagine remontant dans la chambre et en voyant le carnage. Ça devait être assez drôle.
Ah oui, non, mais vraiment, ah non, c'est folklorique parfois. Hein. C'est non, non, c'est vrai que on rit bien.
Bon. Ben c'est bien, ça peut faire le mot de la fin si vous voulez.
Oui.
Je vous remercie d'avoir répondu à ces questions, d'autant que bah, autant beaucoup de dominants osent s'exprimer sur leur relation DS ou BDSM avec leur soumise. Par contre, des dominatrices, c'est bien plus rare et je trouve que c'est intéressant pour les auditeurs d'entendre ce que vous aviez à dire.
Merci, merci à vous et c'était avec plaisir.
Voilà, c'était la dernière interview. Je remercie encore une fois mes invités du jour pour la capacité qu'ils ont eue à s'exprimer sur un sujet intime qu'il n'est pas forcément facile de partager. Si tous ont évidemment usé de pseudonymes pour protéger leur anonymat, il plaisait à DS Matera que j'affiche les coordonnées de son profil Facebook à la fin de l'article dont est issu ce podcast sur notre site internet. Par ailleurs, avec elle, j'ai abordé le sujet du questionnaire de soumission, à propos duquel j'ai rédigé un article et le podcast associé. Les liens sont également disponibles dans l'article. Vous y trouverez un autre témoignage de qualité, celui de Victor-Pierre Alexandre, à propos du Blood Play. Pour conclure, je précise que si les quatre témoignages associent majoritairement amour et BDSM, on ne peut pas en déduire de généralité. Vous pouvez découvrir les liens en description pour approfondir les sujets dont j'ai parlé. Si vous avez écouté cet épisode en podcast, je vous invite à vous rendre sur mon site stevealdoman.com pour y trouver les liens en question, d'autres articles, ainsi que les romans que Rose et moi avons écrits et ceux qui seront bientôt publiés. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt dans un prochain épisode.